OK? Alors, dans le 102, ainsi que dans le 103, je reviens sur ces bases, mais c'est très important. L'idée est la suivante, c'est qu'on a un premier modulateur PWM. 1. Pulse Wave Modulation 1. Qui vient sur un premier commutateur entre masse et référence. On a un deuxième PWM 2 qui vient sur un second commutateur mis entre masse et référence. Et on a ici deux résistances, enfin, l'équivalent de deux résistances de rapport R et 1000R pour ensuite avoir un système de filtrage 3 de bas et d'entrée de sortie. C'est-à-dire qu'en définitive, on a fait deux fois le système, une fois pour les trois chiffres de gauche, le plus significatif, une fois pour les trois chiffres de droite, les moins significatifs. Ce qui ne fait toujours qu'un seul compteur, mais deux systèmes de coïncidence numérique, ce qui fait deux commutateurs, mais dont l'un peut être mille fois moins précis que l'autre, et ce qui fait simplement un réglage de raccordement de façon que mille petits échelons correspondent à un grand échelon. Mais, je sais que les mille petits échelons seront toujours égaux entre eux, puisque j'ai mon système de communication. Je n'ai donc qu'à caler mes deux résistances entre elles à mieux que pour mille. Ce qui signifie qu'en coupant en deux mes six chiffres, trois chiffres plus trois chiffres, je n'ai besoin d'avoir comme pression des résistances qu'un peu mieux qu'un pour mille. Alors que si je veux que tous les petits incréments passent comme il faut et qu'un système classique et bizarre qui vous parlait, c'est le millionième qui vaut sur la résistance et non pas le millième. Vous voyez donc, en définitive, j'ai pris un procédé qui est un procédé hybride, c'est le principe de la modulation par l'impulsion, mais utilisé deux fois avec quand même un système de diviseur à résistance. Diviseur à résistance ne comportant que deux résistances et la précision relative. Les deux résistances devant être simplement meilleures que le pour 1000, ce qui est tout à fait banal avec des résistances pour des questions de température de 3,6 et des dérives de l'ordre de 5,6 par an. OK? Si j'ai mis ça, c'est parce que les technologies, et il va falloir insister du point de vue impact commercial sur l'évolution technologique du matériel, que le 102 à 10 ans. Il ne s'agit pas de faire un remake du 102. Or, du point de vue technologique, il y a un changement fondamental, aussi bien dans la partie conversion numérique analogique, c'est-à-dire tout le bazar qui fournit la grandeur de sortie, que dans la génération numérique des créneaux, c'est-à-dire en fait la partie digitale du système. Alors, en ce qui concerne la partie analogique, les commutateurs à l'époque étaient faits avec des transistors de commutation. Des présentes commutations pour les faire pour avoir des grosses géométriques et donc des très faibles résistances internes, les faire commuter très vite, il ne faut pas oublier que ce malheureux commutateur-là avait 12 transistors, un schéma tellement compliqué que chaque fois que tu leur plonges dedans, ils ne comprennent rien du tout, ils courent une demi-heure pour moi, pas vrai, c'est ce que je découvre en fait, et qu'en plus, les transistors de sortie étaient thermostatés de façon à ne pas avoir de dérive sur leur tension de saturation entre la température ambiante. D'autre part, donc ça, c'est des transistors. Je marque en rouge. Transistor. Ici aussi, transistor, mais commutateur, on appelle commutateur froid, même dans le 103, c'est le commutateur le moins précis. Lui, peut avoir mille fois plus d'erreurs que l'autre, mais bien qu'il peut être beaucoup plus simple. Le filtre passe-bas était à l'époque, car à l'époque, on avait des amplificateurs opérationnels binaires, donc on pouvait voir faire la filtre active. C'est un filtre en composant discrète, mais c'était un filtre qui devait fonctionner avec une charge à la masse infinie. Et il ne devait pas avoir de fuite, ce filtre, tout en ayant une bonne réponse indicielle. C'est un filtre d'une structure très particulière, c'est un 8 pôles qui comportait 8 condensateurs, 4 résistances et 4 sels. Donc le filtre passe-bas était excessivement onéreux, d'autant plus qu'il était dans une boîte en U métal. Alors, ce mec, L, c'est U métal.
tout le bloc qui était moulé.
Tout le bloc qui était moulé. Et savez-vous combien coûte la simple boîte dans laquelle on moule, la boîte en tôle dans laquelle on moule le micro-détecteur ? Son prix actualisé de 185 francs. L'ampli de sortie avait un gros inconvénient, c'est qu'il n'était pas pivot. C'est-à-dire que l'ampli de sortie avait un gain 1 et 10, c'est-à-dire qu'il sortait 10 volts et 100 volts, mais il sortait une seule polarité. Puis pour le moment, une polarité, on était bien empoisonné. Voilà. Qu'est-ce qu'on a voulu faire pour le 103 ? On a voulu à la fois simplifier la technologie. Je dis ici par exemple que le filtre en question est remplacé par des condensateurs à 40 centimes, à distance de 10 centimes, et deux amplificateurs opérationnels à 345. Ces caractéristiques sont bien meilleures que celles-là. Les commutateurs sont des commutateurs MOS. Il y a d'ailleurs une astuce en ce qui concerne celui-là, parce qu'on a un excellent commutateur MOS là, pour 1.80. Mais il a fallu choisir le bon circuit. Il y en a un seul qui convient, et pour des raisons très particulières. Le type qui débarque dans la question, je crois qu'il est pas obligé de trouver le premier coup le bon circuit. Alors ça, on a dit donc, je le mets en jaune, un MOS, c'est MOS. Le commutateur, le filtre passe-bas, on l'a traité en filtre actif. Et dans le filtre actif, on a introduit un étage d'amplification de gain plus 1 ou moins 1. C'est-à-dire qu'on a rajouté la polarité. Je dis qu'on l'a rajouté à l'intérieur du filtre actif, et non pas en sortie du filtre actif, parce que si, et c'est un piège dans lequel on aurait pu tomber, je vais peut-être un petit peu plus long, ça vous est égal, ça vous intéresse. Si par exemple par rapport à 0, je programme plus 7 et ensuite moins 1, si la réponse de mon commutateur de polarité est instantanée, alors la réponse de mon filtre va être molle, je risque d'avoir ici de plus 7 de filer à moins 7 et d'ensuite aller à moins 1. C'est-à-dire que je risque d'avoir un undershoot, un overshoot dans le temps. Il est donc nécessaire que la commutation de polarité se fasse avant qu'il parte. En fait, j'ai été obligé de couper la poire en deux, la commutation de polarité se fait à mi-filtre par là. Donc on évite pratiquement le problème du dépassement. Je tenais quand même à signaler au passage. Ok ? Seulement ça implique que l'ampli de sortie doit obligatoirement sortir plus ou moins 100 volts, et non pas sortir seulement 100 volts. Alors pour ça, c'est un ampli dans lequel les tensions d'alimentation de l'étage final font 120 volts différentiel. Alors on les laisse flotter quand on est sur les gammes 10 volts et 1 volt. On les laisse flotter et elles viennent s'appuyer quand même sur du plus 20 ou du moins 20. Si on tire trop sur le plus, donc on ne pique pas la gueule à 20. Si on tire trop sur le moins redescend jusqu'à moins 20, c'est-à-dire que l'autre bout croise à 100, il n'évite pas. Mais quand on part sur la gamme 100 volts, avec deux commutateurs, on vient foutre à la masse le moins ou le plus de cette alimentation-là, et l'ampli devient absolument dissymétrique comme amplitude. Et on commute, au fond la position par rapport à la masse de cette alimentation flottille, en même temps qu'on change la commutation de polarité ici. Ce qui fait qu'il faut avoir des transistors plus et moins qui tiennent au moins 140 volts, mais n'ont pas besoin de tenir 200 volts. Ok ? Donc l'ampli est un ampli pivot. C'est des transistors pour alimentation. C'est des moteurs là, des MGE, 15-0-11 et 15-0-12.
C'est pas des modes,
c'est des modes. Ah non, non, c'est bon, pas de pas de problème. Alors, le schéma d'amplificateur, un jour, je pourrais mettre en explication noir sur blanc, il y a des astuces, alors c'est épouvantable. Alors là aussi, pour l'ampli, je comprends pas, Mais il est de très grosse qualité parce que quand on se charge en tension, quand il marche en courant, quand on se charge en courant, quand il marche en tension, dans tous les cas, il donne de l'alarme. Bon. Et l'alarme pas chère, c'est ce que les gens appellent l'alarme à l'aide. Bon. Ok. Voilà en gros ce qu'il y a dans toute la partie conversion numérique analogique. peut ajouter différentes choses. La gamme 10 volts semble trop grande. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté une gamme à 1 volt. Il est là pour une gamme à 1 volt, toute la dérive de ce qu'il y a là va être divisée par 10, mais la dérive propre de l'ampli final, elle sera divisée par 10. On s'est donc payé comme ampli de tête de la partie finale un 0,07 qui est un amplificateur dont la dérive à long terme est en plus de 3 microvolts. Ce qui fait que sur la gamme à 1 volt, on pense tenir dans 5,5 ampli. Alors l'avantage quand même, c'est de sortir un volt et faire un microvolt sur le bout en bas. Pas confondre résolution. Résolution, stabilité et précision. Hein, là, bon. Alors, ceci étant, il y a d'autres choses qu'on avait reprochées au 102. Entre autres, de ne pas tenir compte des résistances de connexion vers la carte. C'est la raison pour laquelle l'ampli sort ici, avec ici son retour, que je vais appeler son moins. Et quand on est en reverse, le moins devient un plus, bien entendu. Et on a deux autres bornes, qui sont des bornes de sense, que j'appelle retour, qui proviennent ici. C'est-à-dire que la tension qu'on impose n'est plus la tension aux bornes des bornes de sortie, mais la tension aux bornes des bornes de retour. Hein.
C'est la compensation
de ligne. Ah, une limitation près. La compensation de ligne est très précise à la condition que la chute entre le plus et le sense plus et entre le moins et le sense point ne dépasse pas 400 millivolts. Parce que pour éviter des fausses manips, quand on enlève les cavaliers pour fonctionner en montage 4 fils, les cavaliers sont quand même chantés dans l'appareil par deux vieux de tête sèche. Ok ? Mais ça, j'ai dû absolument à le faire parce que ça évite le coup du vin. C'est une protection, ça évite surtout de s'envoler d'une façon bête quand on n'est pas les calculs.
Ok, elle donne la tenue en puissance de ces diodes-là. Est-ce qu'elle peut accepter la puissance ou pas?
Quelle puissance?
Les diodes, mais elles sont là, c'est des diodes.
Mais n'importe comment on a que 120 mm de sortie. Alors 120 mm, 1 mV, ça fait combien de mV?
C'est 60 mV.
Bon. Arrivé à ces points de notre cogitation initiale, on s'est dit on va faire un appareil qui va nous faire la preuve de tout ce qu'on sait faire. Quitte à ensuite intrapoler pour sortir d'autres modèles. Et il faudra qu'en 15 jours, on ait une discussion pour définir les un ou deux autres modèles de la famille 103, qui s'appelle peut-être 104 et 105, qui ne demanderont plus qu'un petit peu de transpiration pour les sortir, parce qu'ils sont là encore plus simples que le 3430. Ok ? On s'est dit pourquoi ne pas sortir aussi une fonction courante. Alors j'ai vu comment tous les autres fonctions courantes, c'est très compliqué. Et là, on s'y est pris d'une autre façon. C'est pris d'une façon très simple. Je vous fais grâce des histoires de quarks, de systèmes flottants, de retour, etc. Montrer le principe. Si ici j'ai mon bloc référence qui me sort ici, ma tension de référence, que je vais appeler plus et moins, dire en fait la tension et son retour. Si je viens ici, comparer dans un ampliope qui va me fournir la sortie. Si je viens ici comparer la tension de sortie et la tension d'entrée, j'ai ici la fonction tension. C'est-à-dire que si j'envoie du moins, ça c'est le retour, si j'envoie du moins, ici j'ai ma sortie plus. Je marche en opérationnel. Je suis forcé de marcher en opérationnel parce que je veux sortir un vol pour 10 vols de référence. Je veux donc un gain inférieur à l'unité. Si je veux faire un gain inférieur à l'unité avec un ampli qui ne soit pas opérationnel, je ne peux plus utiliser le set. Pour pouvoir utiliser le sense, c'était pas évident, mais enfin ça se démontre, on est obligé de marcher en opérationnel, non plus en suiveur, comme dans le centre. Ok ? Et ça, je le mets là. Voilà. Ça, c'est le montage tension. Comment comment fonctionner en courant ? Ben, pour fonctionner en courant, ça consiste à rajouter dans le retour un champ, à couper ça et à venir renvoyer ça en feedback. Ok ? Donc simplement par un jeu de commutation de résistance, je peux marcher en tension ou je peux marcher en courant. Donc quand je marche en courant, c'est plus ce grand fil-là qui vient de balayer sur le panneau avant, c'est une broche qui n'est plus à ce point-là. C'est pour ça qu'en définitive, c'est très simple pour le principe, mais du point de vue de l'implantation et de la disposition des anneaux de garde, quand on veut tenir un anneau en fer à 100 volts dans le générateur de courant, un anneau en fer à 100 volts vous signale que ça fait 10 puissance 11 ohms nécessaire comme impédance de transfert. D'accord. Wow. 10.9, 10.2. Ok. Alors, voilà comment est faite la fonction courant. Il n'est pas du tout exclu qu'on fasse d'autres appareils qui n'aient pas la fonction courant. Par contre, je crois qu'industriellement, la fonction courant est très importante pour simuler des capteurs qui sortent en 0 à 20 ou en 4 à 20 000. Les capteurs qui sortent en courant, les transmetteurs de courant. Alors, à ceci s'ajoutent deux autres notions. Tout ça, ça vous éclaire déjà les paramètres qui sont définis provisoirement. Quand on marche en tension, il faut définir ce qu'on appelle une compliance, c'est-à-dire la possibilité de fournir l'autre paramètre vers le courant. Quel est le courant qu'on peut fournir en fonction de tension? Il y a la compliance en courant, donc en fonction de tension. Alors, elle est réglée par un certain élément qui se trouve quelque part par là, et elle est de 120 mm nominal. En fait, on donne l'appareil pour plus grand ou égal à 100. C'est 120 mm nominal, mais elle peut être réduite par commutation à 50 ou à 25 milli. Donc on a des limitations de courant quand on est en fonction de tension à 50 et à 25 milli. De même, quand on est en fonction courant, on a une limitation par un système commuté dans l'entrée de sortie qui limite la tension à vide des bornes qui délivrent le courant si on coupe la charge, ce qui est tout à fait logique. Et alors en tension courant, on peut avoir 120 volts normalement quand on n'a pas de limitation, mais on peut limiter aussi à 50 et on peut limiter aussi à 25. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les 50 volts de limitation? C'est parce que justement, pour simuler les capteurs qui sortent en capteurs de courant, les réseaux sont en général alimentés par une batterie flottante de 48 volts. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez marcher en simulation de transmetteur de courant avec la batterie de 48 volts incorporée. Ça vous simule le capteur et l'alimentation flottante. Vous pouvez donc directement faire la simulation pour attaquer le transmetteur de courant. Okay? Je pense qu'il y a un des bouchers qui échappait totalement au centre de là. Est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est pas grand? Et quand vous voyez tous les gens comme Fox, Boron, Massolénan, Newell, etc., travaillent tous en 80 mm. Vous savez l'avantage de la boucle de courant en ambiance industrielle, c'est que les résistances de ligne n'interviennent plus, il n'y a plus besoin de faire des tas de pivots. Il suffit simplement que les fils soient bien isolés, et on peut avoir 10 ohms ou 100 ohms dans la ligne, on s'en fout. D'accord, M. Martin? Ça me semble très important dans la simulation de courant. C'est la raison pour laquelle le premier appareil est bon. Alors, ceci étant, alors que on avait parfaitement défini l'appareil, le marketing est revenu à l'assaut, en me cassant les pieds comme à l'habitude, puisque tout était théoriquement terminé, en me disant 100 volts c'est embêtant, faut aller au-dessus. Alors, beaucoup de gens vont jusqu'à 112 volts tous les 1. Moi, je ne vais pas jusqu'à 112 volts tous les 1. Les câbles sont limités à 1,09 tous les 1. Thank you. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ajouté un digit sur le chiffre de gauche. Et qu'en fait, on va à 110 volts. 109 volts, tous les deux. OK ? Donc, on a l'overhead qui n'avait pas le 102. Ça peut-être être un argument commercial. Vous êtes tous les deux dans l'histoire, vous le voyez,
non ?
Non, on va tout compliquer. Il va falloir programmer les courants limites en faisant attention. Vous vous rendez compte ? Faire foutre derrière les flottants et tout. Non. Pas de question. C'est 120 millilitres, quel que soit la vie. OK ? Bon. Alors, ceci étant, on peut donc considérer que nous venons de résoudre information d'impulsion symétrique qui ensuite va être reformée sous forme d'un premier créneau. Une seconde impulsion qui va être reformée après isolement sous forme d'un second créneau. C'est d'ailleurs pour ça que le 102 marchait pas bien pour les entraînements, parce qu'on n'avait pas tenu compte du fait qu'il y avait des contraintes de temps dans le creux. Bon. Pour reformer exactement les impulsions, de toute façon, tous les échelons en temps, en durée, soient bien des incréments réguliers. Et une fois qu'on est uniquement référé à ça, on envoie en plus une horloge. C'est-à-dire que l'horloge redéfinit exactement, avec une fréquence constante, les fronts des deux créneaux qui sont envoyés à l'intérieur. OK ? Et puis on envoie ici. Alors ça passe par des transpos. Il y a donc trois transpos. Deux transpos qui font comme les transpos de 102, plus le troisième qui est un transpos de restitution de phase d'horloge. C'est la raison pour laquelle on va d'ailleurs avoir un raccordement des gammes absolument parfait. C'est tout dans le sens. J'avais imputé au temps de désaturation des transistors la linéarité pour les alors qu'en fait, c'était une question de non-décharge des constantes de temps lorsqu'on avait des largeurs de créneaux. J'ai découvert ça en faisant le calcul au mois d'août de l'année dernière quand j'ai dit que. Oh, vas-y, tu as une série complètement. Alors là, ensuite, il y a un certain nombre de commutateurs. Alors, il y a la fonction IV qui est transmise à travers un isolateur optoélectronique. La fonction inhibition qui annule la tension de sortie en fonction tension et courant de sortie en courant lorsque l'on inhibe, lorsqu'on est à zéro. De même que c'est ce qui est le stand-by ou l'attente dans le 102. Et ensuite, vous avez trois entrées qui définissent les gammes. Il y en a deux. Deux gammes et une de polarité. Vous voyez donc que vous avez cinq informations qui passent. Ces informations n'ont pas besoin de transiter vite, puisqu'elles sont des millisecondes pour transiter. Elles sont donc données, elles, par des coupleurs optoélectroniques. OK, dans ce sens-là. Et puis, quand en courant, on dépasse, quand en fonction de tension, on dépasse la compliance que nous pouvons programmer. Ou quand, en fonction courant, on dépasse la compliance de tension programmée, on a une alarme. Et cette alarme est transmise, elle, par un coupleur en sens contraire, qui vient indiquer à la logique qui se trouve à gauche qu'on a l'alarme. Voilà donc ici la frontière entre la partie conversion numérique analogique et pilotage du système, la frontière qui est donc composée de 3 transformateurs et de 6 coupleurs optoélectroniques, 5 dans le sens de commande et 1 dans le sens de retour-battant. Alors il fallait ensuite faire la partie de gauche, la partie logique. Alors la partie logique est une partie portée sur l'emploi d'un microprocesseur, puisque n'importe comment on déprime la bus qui 3 heures, et dès lors qu'on avait une interface bus qui 3 heures, ça faisait pas beaucoup plus de matériel de gérer toutes les fonctions du panneau avant par le microprocesseur. Voilà donc un microprocesseur, mais qui se contente de délivrer des consignes à un compteur programmé comme le compteur programmé du 102. Évidemment, fait avec une technologie plus moderne, il n'y a pas des comparateurs de la gueule du 110 pour la distance entre le compteur du 102, c'est des circuits AD. Mais on peut remarquer une chose, c'est que cette partie gauche qui comporte donc la connexion au clavier et la connexion au bus, elle n'a aucune raison d'être reliée à la masse. Et comme elle est électriquement isolée de la sortie, ça veut dire que le bus, lui, n'a pas besoin d'avoir un isolement, puisque l'isolement, on l'a déjà. Ce qui suffit simplement, c'est que tout ça, ça soit floating. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'être floating, de ne pas être référé à la masse. Et de n'avoir sur le panneau avant que des éléments de commande eux-mêmes isolants. Ce qui est le cas des claviers, ce qui est le cas des switches, n'importe quoi. Ok ?
D'abord, la cinquième borne en bas.
C'est la boîte.
La boîte.
C'est la boîte.
Qui n'est pas. Elle est reliée au 07 là ?
Ah, ben bien sûr, elle est reliée au 07. Ben, toujours ! C'est une nécessité. La caisse, vous avez besoin. Ok. Ok. Alors, j'entre pas dans le détail sur la structure de cette partie-là. Mais ce qu'il faudrait, c'est que j'ouvre en 10 minutes Netflix pour le faire avec le web, tout simplement. Mais je voulais quand même vous indiquer tout ça pour vous montrer l'évolution technologique et en fait la façon dont les deux sont liés et surtout ce qu'avec cette technique-là et une éventuelle autre structure de la partie numérique, on peut faire comme autre version d'appareil. Parce qu'il est évident que si on voulait, par exemple, faire un générateur uniquement de tension à 5 chiffres ou admettons à 4 chiffres plus un vernier qui soit vendu au prix des générateurs à distance, il n'y a pas de problème avec le nouvel mécanisme, on peut le faire. Puisqu'on ne fout plus en l'air maintenant du fric inutilement avec, disons, des éléments de base comme le panneau, la boîte et tout le bazar, on a vraiment réduit. Ah non, mais on en parlera dans 15 jours. Hein. Pour l'instant, je pose des questions. Alors, question bruit, c'est plutôt meilleur que 102.
Il y avait un problème dans le 102, c'est qu'il y avait des pics qui passaient en sortie du produit des commutateurs.
Oui, mais là, c'est très amélioré du point de vue de la. On n'a pas encore les valeurs exactes, on va laisser dans la boîte. À la dérive de 0 est bien meilleur.
Il est compensé par la boucle.
Vous ne pouvez pas compenser un 0 dans une boucle. Comment est-ce que vous compensez un 0 dans une boucle?
Disons qu'en fonction de la température, il y avait un offset qui se baladait. Est-ce que cela a été compensé selon ça?
Non, il y a des composants effets avec l'armure. On a de l'ordre, en sortie, on tient la dérive du 0 et de l'ordre de 2 microvolts par heure.
Quand on
est
en alarme,
par exemple,
on travaille en courant, on dépasse
de 25 minutes courant
sur une sur cette
diagonale.
On
a
une alarme qui s'allume.
Ah
non,
on
ne
dépasse pas, non. On se limite automatiquement
à l'inhibition. C'est une limitation, c'est pas une inhibition.
C'est une limitation. C'est-à-dire qu'en fait, on a une caractéristique rectangulaire. Hein. Voilà. Vous avez ici V en fonction de I. Alors vous avez ici une partie qui est la résistance interne pratiquement nulle.
pouvez annoncer des chiffres de réponse interne identiques à celles de 1202, c'est pareil, c'est pas raison. Et puis à un moment donné, quand vous arrivez sur le IMAX, vous cassez la gueule. Et dès que la tension a baissé de 10-5, cette zone-là se signale en alarme.
Le premier 102 avait fait un rideau.
C'est pas du tout le même type de visiteur. Tous les transiteurs sont tous les transiteurs 350
voiles. Et à quel niveau
de poisson
est-il ?
Vous
avez
vu
le transiteur ? Vous avez le problème à la salle. Vous avez le transiteur ? Oui, bon, attends. Il y a toujours un risque qu'un semi-conducteur qui est situé entre la sortie et le plus se mette en rideau. Oui, enfin, ça pourrait encore se produire. Moi, je peux vous signaler 3-4 composants en 102 qui, si se foutaient en rideau, vous sortiraient du sans-vol. Bon, ben, dans celui-là aussi. Mais là, les transistors de sortie sont des transistors qui sont des 150 watts. Ils sont faits pour sortir 5 ampères, 350, commuter 5 ampères sous 350 volts. On leur demande de commuter ici 120 milli sous 120 volts. Alors, je pense que vraiment, alors.
Alors, chapitre de sécurité, il faudrait dire, c'est que lors de la mise sous tension, l'appareil s'y met.
Ah, initialement, l'appareil, il se met en fonction courant et inhibition. Parce que quand on est en courant, quand on est en tension, l'inhibition donne zéro de tension. Mais si on court-circuite, il peut quand même croiser du courant parce qu'on peut avoir la fonction de décalage de zéro dans le court-circuit. C'est pas bien gênant, ça, parce que c'est du courant, c'est une. Ce qui est embêtant par contre, c'est qu'en fonction de courant, si on se met en inhibition, eh bien, on coupe le courant. Mais s'il reste 2 nanoampères de reste sur une charge infinie, c'est-à-dire qu'on peut très bien monter quand même à 120 volts et prendre une coupe de chapelle. Alors c'est la raison pour laquelle en fonction inhibition de courant, quand on met en inhibition en courant ou quand l'appareil est mis sous tension à l'origine, on se met en position courant 1 milli, donc la première gamme courant. Et les bornes de sortie sont chantées par une 50 ohms.
Ça veut dire aussi que lorsque vous coupez le secteur, à partir du moment où elle a une certaine durée, l'appareil ne va pas en inhibition.
Mais quand vous mettez inhibition, vous pouvez changer vos charges sur la contre-courant, en pas d'inhibition. Vous pouvez changer votre charge, vous ne risquez plus de prendre une certaine épouvantable, parce que vous aurez tout au plus l'offset de courant dans 50 ohms. Ce qui fait même sur la gamme 100 milli, ça risque de vous donner quelques, au plus 1 ou 2 millivolts dans les lois, je pense pas que ce soit là.
Depuis réglage,
il y a 13 réglages, tous indépendants, et la calibration totale doit se faire en moins d'un quart d'heure. Ah, mais ces réglages-là sont tous absolument en ligne. Il n'y a pas de problème. Il y a la tension de référence, nominale. Il y a 6 étalonnages de bout de gamme. Les 6 étalonnages de bout de gamme. Les 6 gammes sont étalonnées indépendamment. Les 3 gammes tension et 3 gammes courant. Il y a 6 étalonnages. Il y a d'abord le 0 plus et le 0 moins. Il y a le 0 plus, le 0 moins. Les 6 étalonnages bout de gamme, ça fait 8, il y a plus que ça, il me semble. Le réglage est absolument systématique. Hein. Et tous les réglages, quand on a réglé le 0 plus, on a réglé 0 moins, les réglages des 6 gammes sont tous indépendants les uns des autres.
Est-ce que c'est sous la.
Ah, puis il y a le calage. Il y a le calage de raccordement des deux gammes, c'est-à-dire de 999 à 1000 au jusqu'à 1 mars, donc le calage de raccordement. Et puis il y a encore le 10e calage, le 10, qui est le calage de linéarité, pour caler le 5 volts. De 5 volts de 5 est militant entre 0 et 11. Vous savez qu'il y a une petite erreur dans l'idéalité, là, on s'en veut. Là, on a prévu un réglage dans l'idéalité. Si on n'a pas la linéarité, la non-linéarité totale, par rapport à la meilleure droite, peut atteindre 2,5. Parce que là, on peut se caler à 2,6 de meilleure droite.
La référence de l'appareil, c'est le
point de tonnerre. Ah, c'est une. C'est le point de tonnerre. C'est un circuit intégré auto-thermostable, qui donne moins d'un BPM par degré. Et qui donne 2,10, qui est garanti 2,10,5 sur un an.
Sur un
an? Un an.
C'est au combien?
30 francs.
Tout fait. Il y a une question qui a peut-être déjà posée.
C'est de LM399.
La stabilité du zéro.
C'est
un peu péché du 102.
Oui, il est meilleur que le 102, il est environ 4 fois meilleur que le 102.
Il est
3-4 fois meilleur que ça. Le pot zéro, vous pouvez atteindre
150
millivolts.
150 microvolts, pardon. 10 volts.
Sur 10 volts, on doit
dire
30 à 40 microvolts.
Et ça se stabilise rapidement.
Sur le
102, il y avait un temps de stabilisation
qui aurait été. Il faut monter quand même pour
que ça va aller à côté. 5 minutes. Au début du 102, des fois, c'était la journée.
Hein. Avant. Le bruit, on n'a pas encore les valeurs exactes de bruit. C'est de l'ordre de 100 microvolts sur la gamme 100 volts. Sur la gamme 100 volts, le bruit n'est pas très bon. Mais c'est environ 30 microvolts sur la gamme 10 volts et 10 à 15 microvolts sur la gamme 100 volts.
Est-ce que vous avez un certain nombre de clients pour essayer de se débarrasser de ces pics, justement sur la sortie? Capacité de 10 ou 20 picots pour essayer d'intégrer ce pic.
20 picots sur la sortie,
oui.
Et une capacité.
Mais dans 20 picots sur la sortie. Une capacité très faible, hein, bien sûr, vous voyez, et on réduit énormément ces pics que l'on trouve en sortie, ce bruit.
Savez-vous,
si c'était une valeur très très faible. Oui, 20-30 picots, c'était une maxi.
Le pic, c'était des résidus de l'étage.
Oui,
c'était
66 kilos, le 166 kilos, c'était. Le fait de mettre une petite capa, on le supprimait. Ici, est-ce que ça sera utile ou pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura quelque chose à rajouter?
Pas bien. On va le prendre, vous êtes plus loin. On s'en
dirait. Non, c'est pas grave. Et je me suis regardé pour l'état d'un des convertisseurs.
Voilà en gros comment ça diffère.
Dans pour les caractéristiques, je crois qu'il faudra être moins, il faudra être un peu plus vicieux que la façon dont on a annoncé la
question. On vous a dit beaucoup trop de choses sur ce temps-là. Vous allez définir les choses avec 0,7, avec 0,7 quelque chose de 20.
On aurait tout pu avoir pu, mais apparemment c'était bien mieux.
Donc les deux,
on sera un petit peu.
valeur fondamentale de cet appareil par rapport au centre, ce qui permet de simuler des capteurs
Non, mais simplement que vous voyez l'appareil. En fait, on entre les valeurs et on appuie sur la touche exécute. Pendant qu'on entre les valeurs, il y a une fonction de XY qui permet de regarder ce qu'il y avait avant. Alors l'XY est intéressant parce que quand on
parle de celui-là,
quand on entre une boulie, je l'ai dit fois. Vous pouvez me le démontrer? Bon. Alors le XY, c'est plus avec XY, parce que c'est une notion que tout le monde connaît, c'est surtout des calculatrices. Bon. Donc quand on tape une valeur clavier, il faudrait savoir si ce qui est avec nous sur la sortie. Donc ça pourrait s'appeler clavier sortie. Chaque fois qu'on appuie, on recopie tout. Il y a deux voyants qui marquent clavier sortie. Donc on sait si ce qu'on appuie, c'est ce qu'on est en train de taper, c'est ce qui est sur la sortie. Alors ce qu'on a tapé, si on veut que ça entre vers la sortie, il y a la touche Enter qui l'exécute, vous appuyez sur l'exécute, c'est ce point-là, c'est transféré. Alors, vous avez à part ça des fonctions pourcent, des fonctions incrémentales, c'est-à-dire que vous tapez une valeur, et puis vous pouvez faire l'incrément plus, l'incrément moins, et puis vous avez, en fait, c'est à peu près, vous pouvez faire, par exemple, des deltas, c'est-à-dire que les deltas, c'est pour le transféré.
L'incrément,
vous tapez une valeur, donc tu rapportes. Vous tapez une valeur en pourcent de ce que vous avez affiché, vous tapez une valeur en absolu. Et puis vous pouvez l'incrémenter en plus ou en moins. Par exemple, si vous avez une
10%,
alors ça veut dire que vous permet de faire des points alignés. Et puis vous avez une fonction sweep, laquelle du point est beaucoup plus nue. Moi je pense qu'il y a pour un pareil qui fait au plus du point par seconde, c'est de la connerie. On peut se fixer deux limites extrêmes, et entre les limites extrêmes, on peut faire un certain nombre de points automatiques. De façon à passer une courbe de réponse. Avec un bâtiment de 1000 points.
On séparément des deux limites.
Si on veut.
Et on donne le pas.
Si on veut, oui.
Et
on s'arrête de parler de l'autre. Et alors, on ressort sur une PLC, une tension X qui fait 10 millivolts par tête. Donc 5 millivolts par tête.
On peut dépasser une table.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est un convertisseur. C'est un DAC, c'est MOS, qui est alimenté sous 5V12. C'est pour ça, d'ailleurs, que toute partie va être alimentée sous 5V12 et pas 5V. Donc le DAC donne exactement 5 millions par
jour. Vous rappelez le fameux programmateur que vous demandez le CEP, là, c'était exactement ça.
Ouais, vous l'avez.
Il me trace des courbes. Non, mais si, moi je crois que cette fonction.
Population.
Population.
J'ai bien que la notion actuelle, même avec le bus 3E, c'était